Par ici, disait Jules, Sédéman a tel domaine, c'est le bureau de tel bâtier. Augustin pressentait de très humbles technicités rustiques, probablement inchangées depuis le début des temps pastoraux. Mais il vit qu'il se trompait. Le cousin ajouta, « Ma montagne à moi est plus près. J'ai des choses nouvelles, comme ma presse anglaise à fromage, des choses à surveiller qui ont coûté de l'argent. Elles font en 10 minutes la besogne de 2 heures, et elles la font mieux. » La montagne de Serre-Haut est-elle par ici? Par là-bas, dit Jules, dont la paresseuse insouciance avait décidément perdu l'habitude d'employer sa main pour montrer. Mais la sèche saccade du menton semblait réservée aux choses proches. D'un penchement de tête assez pareil à un coup de corne, la nuque et l'occiput indiquèrent une région lointaine du côté des chemins de fer et des villes englouties dans des horizons éblouissants. Ces infinies surfaces inhabitées, où ne pépillait aucun oiseau, n'étaient cependant pas inertes ni silencieuses. Elles fourmillaient d'une vie diluée, très loin des hommes. Traversant le bourdonnement des mouches et des crissements des cigales, plus haut qu'eux sur la hiérarchie des bruits, des meuglements de bestiaux au son pur et pauvre perdaient dans la ténuité de l'air leur masse sonore et leur volume, gardant juste un timbre terreux et élémentaire de plainte pastorale. Augustin, en exagérant à peine ses impressions, les interprétait comme un inassouvissement douloureux de très simples désirs. Les clarines de bête, les sonnailles au son fêlé, intermédiaires entre le métal et le bois, arrêtaient leurs vibrations trop tôt, avant que pût naître la véritable musique. Elles disaient l'essentiel en une simplicité de pauvre homme, puis s'évanouissaient dans un plein air disproportionné, à la fois morne et radieux. La route encercla une tête de vallon où suintaient ces eaux de marécage que le cousin appelait Nars. Simple égratignure dans la crinière des pâturages, le creux s'approfondissait lentement en aval vers la région invisible et chaotique des gorges. Très loin au-delà, plus loin que tout, plus loin que ce dentelé bleu fin et fatigué, de monts au nom incertain, en de rares jours très purs, 2 ou 3 par an, disait le cousin, à des distances perdues, on croyait voir, on n'était pas très sûr, d'autres dentelés blancs fixes, d'une immobilité parfaite, portés sur des piédestaux de nuages et pareils à un épaississement de la lumière. C'étaient les Alpes. Partout ailleurs, l'ondulante immensité des nappes herbeuses heurtait directement le bas du ciel. La route était très haute. Il y eut un palier où l'on trotta. Augustin fut un certain temps à distinguer, d'avec les conversations fragmentaires venant des sièges arrière, une sorte de cantilène rituelle et monotone. Il devina le chapelet coutumier des pèlerinages, sentit comme une envie de s'y joindre et de répondre aux ave. Mais c'était des récitations traditionnelles de femmes. Il s'intimidait aussi de ce dialogue indirect et couvert avec la Marie de chez nous. Des chapelets semblables lui revenaient, moins chantonnés, moins paysans, récités dans sa petite enfance du temps que ses parents étaient jeunes, quand la voiture du vieil oncle montait dans les bois. L'idée lui vint qu'un rosaire comprenait 3 chapelets. 150 ave s'égoutteraient sur la route. Peut-être y aurait-il plusieurs rosaires. Ces femmes cesseraient par pure lassitude physique, non par sentiment du monotone et du fastidieux. Elles ne l'éprouvent pas plus que les bergers la longue passivité de jours semblablement vides, passés sur des pâturages de montagne, et qu'on retrouve dans leurs chansons. Augustin pensa qu'elle pouvait dire un nombre de chapelets fort grand. Imprécise, somnolente, heureuse, comme le reste de sa torpeur, la pensée de Marie ne le quittait pas. S'il lui arrivait de rêver un avenir passé avec elle, lui plus âgé ou elle plus jeune, cette précision de projet gênait la paresseuse douceur de ce présent languide. De même, découvrait-elle trop cette jeune âme fermée dont il aimait le silence intérieur et la sèche lumière, pareille à celle des solitudes qu'ils traversaient. Arrivés au col, ils burent à un petit bac fait d'un tronc d'arbre creusé, velouté de mousse, où se rassemblait une source suintant parmi les mottes d'herbe. On arrêta la voiture pour faire reposer le cheval. Christine voulut boire. Les femmes cherchèrent dans les paniers une tassette en métal. L'eau, invisible de limpidité, glaciale à vous engourdir, offrait un léger goût d'herbe et de fer blanc. Marie restait dans la voiture près de Christine. Les autres femmes descendirent pour remuer les jambes. Le cousin Jules goûta l'eau dans le creux de sa main, puis la cracha sur la route. Lorsque Christine eut bu, Augustin remplit la tasse et l'offrit à Marie, mais elle la refusa d'un étonnement gracieux et d'un sourire tout de suite effacé. Ils remontèrent tous dans la voiture et le vigoureux cheval de Jules se mit à trotter sur les hautes plaines. Augustin ne fut pas déçu. Il s'attendait à cet air à la fois aimable et systématiquement étranger. Dès qu'il fut de nouveau sur la banquette près du cousin, il revit l'image charmante, le chapelet dans les mains brunes, la sincérité des lèvres respirantes et ce visage si curieusement patricien. L'aimait-il? Il devenait assez vain de se le demander. Les circonstances n'eussent juste offert qu'une intimité fraternelle, stabilisée et secrètement pathétique, si seulement elle s'y fût prêtée. Il décida de se retourner parfois franchement vers le groupe des femmes, avec deux ou trois phrases gaies et générales, cachant une petite souffrance heureuse au milieu d'idées vagabondes et chimériques, en somme parmi des irradiations très vastes dont Marie était le cœur. Ils arrivèrent assez tard, 9h30 passées. Parmi quelques auberges et burons de montagne, une chapelle du XVe siècle montrait des parties plus anciennes et des ogives assez pures. Ce petit village, inaccessible en hiver, oublié dans les hautes terres, débris et survivance d'une très antique paroisse, dominait d'assez haut la solitude totale des pâtures. On y arrivait par un accès semblable au chemin de ferme, simple éraflure terreuse sur la surface de la montagne. Le break du cousin Jules, solide, verni, léger, et son robuste cheval, équipage de riches cultivateurs propriétaires, se trouva pris dans la poussière d'autres voitures grimpant devant et derrière eux, carrioles à deux roues, incommodes et sautantes, plus primitives et d'un degré plus bas dans l'ordre rural. Elles portaient des paysannes toutes semblables aux cousines, comme elles, en noir, de cette même très ancienne race, tenace, positive et utilitaire, traversée et marbrée de rêves, de goûts de départ et d'émigration. Sur les routes convergentes, on distinguait d'autres carrioles, taches sombres et mouvantes sur le lacis des routes de côte, entre les éperons de pâture lancés devant eux par les monts du Cantal. « Elles seront en retard, » dit Marie de Labraud qui suivait les regards d'Augustin. L'air s'animait de cloches grêles rongées comme tous les sons par l'altitude. Des souffles capricieux tourbillonnaient, à la fois intermittents et continus. Ils traversaient l'air imbibé, surchauffé de soleil, sans y attiédir leur froid constitutionnel et inaltérable. C'était le vent permanent des hauts espaces, inodorant et éternel. « Nous descendons, » dit Marie, qui se leva de son siège. « Vous, Christine, restez, le chemin est dur. » En pleine marche, elle enjamba sans l'ouvrir la portière basse, posa sur le marchepied son fin pied de montagnière et bondit d'une légèreté précise sur l'un des bas-côtés herbus qui bordaient la route. La vieille Marie de Labraud et Noël la rejoignirent, mais Jules dut les aider à descendre. Elles s'arrêtèrent devant d'informes croix sans âge, posées sur de très vieux piédestaux en basalte. De vagues lettres y marquaient encore dans le rongement des lichens. Auprès d'elle, sœur plus jeune, des croix récentes se dressaient, portant des noms de paroisses sur des plaques de marbre. Les trois orantes commencèrent à genoux sur des mottes de terre les prières du chemin de croix. D'autres paysannes les rejoignirent. Des lambeaux de cantiques montaient comme des flammèches. Les chanteuses suppliaient la Vierge de conduire leurs pas. Les voix traversaient les sonneries de cloches, s'atténuaient, s'émaciaient dans l'énorme soleil, pareil à des bougies en plein jour. « Nous serons là-haut avant elle, » fit Augustin, tandis que la voiture prenait de l'avance sur le poussiéreux chemin. « Que non ! Elles savent les coursières !» La montée fut lente, en effet. Près de la chapelle, un peuple de charrettes élevait en l'air des bras, caricature de la prière des hommes. Leur cheval, attaché à la roue, mangeait le foin qui avait servi de siège. Augustin entra difficilement dans l'église bondée de paysans, lents à se mouvoir autant que leurs vaches tassées contre les confessionnaux. Leur odeur traversait l'odeur de l'église, une fraîcheur de bénitier, de moisi et de caveau. On étouffait. Un prêtre en surplis, étole et manipule, brun comme un mort, finit par sortir d'une porte ménagée dans les arceaux du chœur, s'agenouilla, ouvrit le tabernacle et distribua la communion aux paysans. Il s'écrasait devant l'autel en une molle foule dense, dans laquelle ceux qui avaient communié creusaient leur passage au retour. Augustin vit revenir Marie, lente, d'une douceur rigide, les paupières pures abaissées sur la petite figure romaine. Le respect l'empêcha de la regarder davantage. Il comprit tout d'un coup qu'elle n'eût pas bu pendant la route. Il ne vit pas les deux autres cousines. Quelqu'un le saisit par le coude et le fit se retourner. Christine était livide avec l'air de s'évanouir. Il la ramena au plein air, l'assit contre les roues de la voiture. C'est là que les cousines la retrouvèrent peu après. « Ah ! Dit Marie, vous étiez fatiguée, petite Christine ? Je me suis doutée. » Elle atteignit dans les paniers le sucre, l'eau de mélisse, allongea sous Christine un coussin de manteau. Christine se sentit mieux, le rose revint sur ses joues. Noël expliqua qu'au jour d'aujourd'hui, on ne pouvait plus faire comme autrefois. « Que faisait-on autrefois ? Demanda Augustin. Du temps de mon grand-père, la moitié des gens s'en venaient à la Font-Sainte pieds nus toute la nuit. « Vous trois, dit Augustin, vous n'avez ni bu ni mangé ce matin. « Nous ? Oh, mais ce n'est rien, firent-elles. Et comme sa tante répétait, de notre temps, on ne peut plus. Ainsi que toutes les paysannes qui ne lâchent pas volontiers le fruit de leurs réflexions avant d'être bien sûres que toute l'amende est partie. « Oh, si, fit Marie, on pourrait, mais on ne veut plus. » Elle regardait fixement du côté de l'église, belle vierge ardente et fraternelle, tandis que ses fraîches dents carnassières mordaient dans un croûton de pain sec d'un appétit enfantin. Augustin regardait les deux bouts libres de son foulard de laine secoués par le vent continu. Le déjeuner eut lieu après la messe, en plein air, dans l'entrebâillement d'une porte de grange qui dépendait de l'auberge. Ils s'étaient installés, tous les six, sur un écroulement de foin tombé de haute pile. La conversation reprit sur le même sujet. Augustin en fut traîtreusement l'instigateur. Marie lui parlait du ton simple et amical d'un camarade faucheur. Le cousin Jules, chargé du gigot, le découpait en grosses tranches massives qu'il tendait au mangeur du bout de son couteau. Près de lui, signe de présidence, reposait la provision de vin et de bière prise à l'auberge, qu'il distribuerait tout à l'heure, à bras tendus, dans les gros verres côtelés. Marie disait que beaucoup de gens d'autrefois venaient pieds nus de chez eux, pendant la nuit, amorça Augustin. Puis il se rappela que c'était Noël et non Marie, serra les lèvres et prit le temps d'apaiser son trouble. « J'en ai connu !» fit le cousin en mots d'une netteté sèche, destiné à imposer à ceux qui auraient douté la croyance à de pareils phénomènes. Et tout de suite, s'adressant à Marie, « Tu avais-tu prié la bonne Vierge pour mon affaire ?»« Et la Marie de chez nous, c'est que ça a réussi. » Il lui tendit 40 sous. « Tiens, voilà pour le cierge. »« Allume-le toi-même et vas-y dire un chapelet, grand païen, » fit la Marie de Labrou. « Je suis point païen, dit Jules. » tandis qu'un rire dont presque rien ne passait au dehors éclairait de l'intérieur son masque énigmatique comme une joie close, incommunicable, à déguster seul. « Tu gagnes point tes Pâques. Mais je donne de l'argent au bon Dieu. Peut-être qu'il aime autant ça que si je venais pieds nus. » Ses yeux faussement perplexes et son long nez déporté du bout lui donnaient une extraordinaire expression de bonhomie railleuse et de ruse. « Oh, tais-toi, oncle Jules !» fit Marie frémissante, tandis que se continuait l'air narquois du cousin. Augustin fit insidieusement rebondir la conversation aux idées générales. « Est-ce qu'on retrouve encore ces grandes formes de foi dans le pèlerinage ?»« La Sainte Vierge demande d'autres efforts, » fit Marie, montrant cette ardeur des choses religieuses et en même temps ce ton d'actualité pratique propre aux questions matérielles de première importance, comme le prix des vaches et le salaire des domestiques. Elle ajouta, « Et elle en trouve bien qui les lui donne. » Ses traits gardaient une rose de confidence forcée et d'exaltation mal explicable. Tandis qu'Augustin, attentif à cette phrase un peu obscure, hésitait à comprendre. « Ah, la Marie, » dit la cousine Noël, « sais-tu que tu voudrais toujours te faire nonne ?» Augustin arracha la conversation aux personnalités, tant pour venir au secours de Marie, qu'il voyait désemparée par la brutalité de l'attaque, que pour cacher l'extrême tension de son propre cœur. « On ne sait point, » fit-il, « ce qui répond le mieux aux besoins actuels, religieuse contemplative, hospitalière ou missionnaire. » Mais la cousine revint à la charge avec cette vulgarité qui n'a cure des indiscrétions et ce désir d'exploiter un succès commencé. « Oui, laquelle sais-tu que tu veux être ?» Augustin voyait se gonfler et trembler les très pures lèvres, désespéré des suites qu'avait eues sa question, déchiré de gratitude, d'offrande et de remords. Dans ces circonstances critiques, le cousin Jules eut le poing d'un pater familias. « Faudrait voir à la laisser tranquille, si ça vous fait rien à aucun, hein ?» Il jetait à côté de lui un coup d'œil distrait, oblique et bas, ne regardait personne, ne s'adressait à personne, l'énonciation de sa volonté abstraite n'ayant nul besoin de se fixer sur quelqu'un pour se faire obéir. Elle eût agi toute seule, sans qu'il y fût, comme le chapeau du bailli suffisait sans sa présence. Il ajouta cependant un petit supplément à l'adresse de Noël redevenue muette. « Tu as un peu trop de bec, toi. Les oies en ont moins. » Dans le silence qui suivit, il recommença de mâchonner tranquillement son gigot. Augustin pensa qu'il protégeait cette vocation comme tout ce qu'il faisait obscurément. Une soudaine diminution d'éclairage les fit se retourner tous. Debout contre le cadre de la porte, le dos à la lumière, un paysan contemplait les mangeurs et le tas de foin. Sa chemise de coton sale plongeait dans un de ses pantalons de cérémonie dont sont responsables les tailleurs ruraux et qui font descendre sur les gros souliers des dimanches un nombre indéterminé de plis ingénus. « Tu trouves qu'on t'abîme ton foin, hein, père Laurent Doux ?» fit Jules de son habituelle voix traînarde. « On viendra chez toi prendre le café et le pousse-café et payer le vin et la bière. « Marche, que va !» Mais le paysan fit une espèce de rire à sens mêlé. « Il y a un monsieur Thomassin qui a demandé après vous. »« Ah, il y a un monsieur Thomassin. »« Et comment qu'il savait que j'étais par ici, monsieur Thomassin ?»« Il savait pas. Il demandait que. »« On ira prendre le café avec lui, s'il y est toujours. » Dans l'esprit d'Augustin, la confidence arrachée à Marie se déroulait sans bruit, lentement, pli après pli, comme une étoffe d'ornement sacré trop vaste pour le coffre où elle repose. Retombée aux soucis terrestres, maîtresse d'elle, Marie pliait les serviettes, rangeait soigneusement les restes du repas, avec cet autoritarisme léger qui allait si bien à son visage de jeune patricienne et donnait le désir de lui être soumis. Une sorte de déchirement tendre emplissait l'âme d'Augustin, d'admiration, de pitié, de douceur. Cet intérêt sentimental dont il avait cherché le nom expirait sur un autel. Le chemin vers l'auberge tournait vers la terre fraîchement raclée de la montagne, plein de pierrailles et de crottins. Un grand bruit de foule et d'entrechoquement de verre sortait par les étroites fenêtres. L'entrée était villageoise et pantagruélique. Des gigots et des poulets, enfilés dans des tringles constituant rôtissoirs, rôtissaient et sifflaient devant un feu de fagots. D'étonnantes servantes, hardies, rouges, fumantes comme de la pluie, retournaient de vastes salades avec leurs bras nus plongés dans des baquets. Le patron s'occupait du vin, de la bière, des liqueurs, et en général de toutes choses où il pouvait pousser par son exemple à la consommation. Mais la patronne, petite femme maigre, corsage serré, cheveux tendus, la seule qui ne trouva pas qu'il fît chaud, surveillait avaricieusement, en pelant des pommes de terre en geste d'une technicité rapide. Devant le feu de fagot, un autre feu cuisait, sur un fourneau, des ragoûts dans des casseroles, des bassines de pommes de terre et ces larges pâtés appelés tourtes qui sont le dessert des paysans. Un arôme d'eau-de-vie, de marc et de café ennoblissait tous les autres, instillés en leur masse graisseuse un levain de gaieté. L'immense table supportait un chaos d'assiettes et de bouteilles sales, attaquées par le régiment grondant des mouches noires. Le bruit qui sortait de la salle à manger formait brassage de croissements patois, d'éclats soudains, de chaleur générale et de vaisselle remuée. On avait certainement servi plus de 300 repas. Une bonne sortie, chargée d'assiettes portées en pile, tangentiellement à ses hanches. Se retournant contre une galanterie lourde, elle resta une seconde, sa grande bouche ouverte, immobilisée entre deux portes, le temps de produire un rapide tenier. Une queue de cheval roux descendait dans son cou. Elle suait à pleine figure. Augustin entra dans le sillage creusé par les coudes du cousin Jules. Un vieil homme massif, rose et rasé, le profil plein, les cheveux tendus comme au régiment, présidait une table près de la fenêtre, seigneur visible de 4 ou 5, pour qui il paierait de quelques-uns encore qui ne demandaient qu'à l'entourer et de beaucoup d'autres peut-être, dont l'idée était pour le moment absente de ses regards brutaux et calmes. Son air de tranquillité et de sûreté de soi différait de l'allure fanfaronne et faraude que prennent les paysans à l'auberge. Il avait vu venir le cousin Jules depuis la porte. « Faites-lui place, » dit-il d'un ton froid. Jules s'assit. Leur table fut pour un instant la plus silencieuse de la salle. Augustin trouva un bout de banc près du cousin. Le regard de l'homme, ignorant ce personnage sans nom, se fixait sur Jules avec une sorte d'autorité. « Comment que tu m'as fait ça ? » dit-il. Ce dédain de tout préambule, ce tutoiement immédiat, cet air de puissance, nullement cherché mais ressenti par tout le monde, tant les autres convives que Jules lui-même, stupéfièrent Augustin. Mais ils glissèrent finalement sur une carapace de modestie feinte, d'indolente impénétrabilité et de somnolent sang-froid, qu'à sa stupéfaction plus grande encore, le cousin avait eu le temps de sécréter et de revêtir. « Que je vous ai fait quoi, monsieur Thomassin ? As-tu jamais eu à te plaindre de moi ? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je voudrais savoir. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, monsieur Thomassin ? Dit Jules, changeant lentement son indolence pour un air de naïveté étonnée et innocente. Il jouait avec sa figure, ses yeux et ses épaules, non pas le personnage d'un matois caché sous un bonnet, mais celui de Jean le Simple, tentant de s'approcher de l'intelligence. Thomassin, bien entendu, ne s'y trompait pas. Mais son calme regard dur voyait, plutôt que l'homme qui était devant lui, l'événement passé, définitif, indéfaisable, dont cet homme était cause. Il accusait et précisait le coup. Il ne tentait pas de le réparer. Il envisageait avec netteté l'irrémédiable. Il commença de s'expliquer, non pour le cousin Jules qui savait aussi bien que lui, ni pour les autres présents qui ne devaient pas ignorer non plus, mais pour lui-même, par un sombre plaisir esthétique, comme on fait un bilan net, mettant dans belle lumière intelligente les causes pour lesquelles une affaire a manqué. « Vendredi, j'achète la montagne à Sazra, 45 000. Je passe la vente, je signe. » Il signe. Le notaire signe. « Je remets mon chèque au notaire. Il est 11h30, je m'en souviens bien. Samedi, le notaire me téléphone qu'une autre vente a été passée entre Sazra et toi, de la même propriété, le même jour. Qu'elle a été transcrite avec une célérité peu habituelle. C'est le notaire qui parle. 2 heures au plus après l'acte, et le vendredi même. Je suis devancé à la transcription. Mon achat est nul. De chez le notaire à Mauriac, où est le bureau des hypothèques, il y a 2 heures d'auto, 1h15. Tu as eu le temps de courir à Mauriac, dans le taco du garage à Piarras, loué par toi d'avance, je lui ai demandé. Tu as fait ça sous mon nez. Ma voiture était au même garage, elle t'aurait gratté en 5 minutes. Tu as acheté ma montagne, sachant qu'elle était à moi, pour 500 pistoles de plus. Le cousin Jules, encore à l'étape de l'étonnement, leva les bras au ciel en un silence désespéré. Thomasin continuait. Que ça ne gêne pas un failli ruiné, un foutreau, une graine de pillarot, comme Sazra, je le comprends. Mais toi, tu n'as jamais eu à te plaindre de moi, pas vrai? Pourquoi m'as-tu fait ça? Les traits du cousin Jules changèrent encore. Les forces qu'il étendait avec une si ferme acrobatie, en un modelé de si loin de son âme, cédèrent avec une lenteur où nulle transition n'était saisissable. Ils purent tirer de leur profonde réserve une psychologie ingénue, bonassement navrée, résignée à donner à M. Thomasin toutes les explications et toutes les excuses, toutes celles du moins qui ne modifient pas les faits. « Je ne peux rien, » continuait Thomasin sur Sazra qui n'a plus le sou. « Je ne puis rien sur toi. Je ne peux pas prouver ta mauvaise foi. Je ne peux rien sur mon notaire, qui me paiera sa flemme, quoiqu'il m'ait expliqué qu'il n'y avait pas de flemme et que le délai était normal. Ce que mon avocat m'a confirmé. Tu me souffles pour 50 000 une terre que je ne t'aurais pas laissé avoir pour 70 et plus. Mais, expliquait le cousin, vous êtes toujours en train de me dire « Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Moi, j'ai toujours dit à Sazra que j'étais preneur à 50, si je pouvais les trouver à temps. Je demande à Sazra à midi « Si tu n'as pas encore tout à fait fini, veux-tu 50 ?»« Ils sont dans ma poche. Je viens juste de les trouver à emprunter. »« Je pouvais-tu savoir que vous aviez fini le matin même ?» Augustin baignait dans une totale stupeur. Les paroles du cousin étaient tranquilles, limpides, unies. Il y sentait une ruse énorme. Mais où? Elle était ouatée, fluente, sans aucun relief saisissable. Le cousin continuait. « Écoutez, monsieur Thomasin, c'était pas bien raisonnable non plus de votre côté. Si vous vouliez tant que ça la montagne, fallait y mettre le prix. Si vous aviez voulu y mettre le prix, personne ne pouvait y aller contre vous, ni moi ni les autres. » Mais Thomasin dédaignait d'expliquer que plus l'enchérisseur est de forte taille, moins l'enchère a besoin de l'être, et qu'il avait bien compté là-dessus. Ces évidences étaient indignes de ces deux fins joueurs. Il se contentait d'approfondir avec sérénité la ruse de Jules comme un beau coup d'échec qu'un court commentaire n'épuise pas. « Ce que tu as fait de fort, c'est de placer ton offre après la signature. » Au moment où il ne pouvait plus me demander de hausser mes prix pour la couvrir, parce qu'alors c'est moi qui aurais été à Mauriac. » Tous ces mots partaient d'une voix sèche, calme, et qui n'élevait pas le ton. Les 5 ou 6 paysans buvant autour de ce seigneur de la montagne extrayaient de leur tissu un sourire niais et timide qui cachait très profondément une certaine joie de le voir jouer une fois dans sa vie. Quant aux deux grands réalistes, ils n'avaient pas l'habitude de remuer inutilement les situations inchangeables. « Tu peux compter, dit Thomasin, sur un chien de ma chienne quand elle fera des petits, c'est tout. » Une lueur de raillerie alluma cependant la brutale prunelle sous les touffus sourcils gris. « Écoute, si j'avais été toi et plus jeune, j'aurais pas loué le taco à Piarras. »« Non ?»« J'aurais été trouver le père Thomasin. » Il se salua lui-même légèrement. Je lui aurais emprunté sa propre voiture pour filer sur Mauriac. Peut-être bien que je te l'aurais prêté. « Bon Dieu !» fit le cousin Jules. J'ai mangé 200 francs. Thomasin eut un rire sec de sa bouche où ne participaient pas ses yeux. Fille, cria-t-il. La bonne s'empressa. Une tasse de café pour cette canaille. Puis, s'apercevant d'Augustin. Ah, monsieur est avec lui, alors deux tasses. Quand ils revinrent vers la voiture, Augustin s'ébahissait de cette manœuvre profonde qui lui demeurait indéchiffrable. Le cousin marchait près de lui, avec une autorité froide, écrasant des mottes sous sa large semelle. Tout masque était tombé, toute mollesse bonasse disparue, sa face s'éclairait d'une flamme courte, ironique et satisfaite. « Nous avons toujours pris deux cafés, dit-il, ça me coûte plus que 40 sous. »« 40 sous ? » fit Augustin qui n'avait rien vu payer. « Ceux du cierge. » Silence. « Il est très riche, ce Thomasin. » C'est le plus gros marchand de bestiaux de la montagne. Puis, hésitant, respectueux, calculateur, doit bien faire dans les 8 à 10 millions d'affaires, peut-être plus. Nouveau silence. Du fond de son écrasement, Augustin reprit. Si l'affaire était bonne pour lui, elle l'était bien autant pour vous. Le cousin émit un rugissement sourd et dissyllabique. Meilleur. Ce doit être difficile de lui couper l'herbe sous le pied. Il ne paraît ni bête ni commode. Il a réussi trop longtemps, ça gâte la main. Augustin reconnut, ressuscité, vêtu à la paysanne, les vieilles sanctions de Lubris. Entre eux passaient ces grands coups de vent sauvages, dépeuplés, dédaigneux, rabotant avec la même indifférence toutes les surfaces géographiques d'une seule coulée, depuis l'océan jusqu'aux hauts dentelés, dont il avait vaguement cru, ce matin, discerner la place étincelante. Qu'est-ce que c'est que cette transcription dont il parlait? Pourquoi la faut-il? Ce fut Rome, cette fois, qu'évoqua Jules. Comme un cultivateur du latium récitant la formule d'un contrat solennel, il expliqua, catéchistique et final, « Faut la transcription ». Augustin vit que c'était là toute l'ouverture possible de cette porte. Il lui faudrait ignorer dans ses détails le jeu de cette aristocratie paysanne positive et dure que Thomasin et Jules représentaient tous les deux avec différentes variantes de ruse et de puissance. Mais elle... Augustin sentit revenir toutes les rêveries qu'il avait menées à propos du prêtre sulpicien. S'il y avait dans la famille, comme c'était visible, un appel continu, qu'il avait touché, elle et aussi peut-être sa mère à lui, et ce prêtre, et d'autres religieuses aussi, dont son enfance avait entendu les noms. Comment s'accommodait-il de ce solide positivisme, base de la race? Selon une idée qui s'était établie en lui à propos de Renan, qu'il avait trouvé lyriquement exposée dans Malebranche et dans bien d'autres, Dieu s'impose de respecter le déterminisme de son œuvre. Sans doute l'esprit souffle où il veut, mais le son qu'il rend dépend du trou des flûtes. En ces âmes paysannes et mystiques, comment le positivisme nuançait-il la mysticité? Tous les pèlerins, ceux des auberges et ceux du plein air, s'étaient déjà rassemblés pour la bénédiction. Elle avait lieu très tôt après le déjeuner pour ménager le temps des longs retours. Pendant que le cousin Jules attelait la voiture, Augustin s'en fut avec les femmes à la chapelle. Le soleil de 3 heures tenait en suspens une poussière ocre et ténue sortie du sol désherbé de la montagne, première parcelle dans cette lumière ardente et déjà fatiguée de ce qui serait l'or du soir. Moins bondée que le matin, la chapelle se laissait traverser par les arrivants. Augustin retrouva les pompes catholiques sur un mode rustique, les voix brutes et justes, le foisonnement des ex-voto, le buisson des cierges où brasillait celui du cousin. Il revit Marie, agenouillée, abandonnée, la tête dans les mains, laissant la ligne de son corps exprimer librement, à son insu, toute sa souple et délicieuse jeunesse. Il se sentait pour elle une immense tendresse raidie de respect et comme une glaciale sorte d'amour. Il s'excusait de lire dans son cœur. Le mystère de ce paysage intérieur enfin s'éclairait. Un dentelé blanc fixe, comme celui des Alpes, était apparu aux extrêmes horizons de son âme. Un jour privilégié, un jour d'entre les jours, en plein ciel, au-dessus des nuages terrestres. Combien de pèlerinages semblables à celui-ci verrait-elle encore? Vers quel ordre s'en irait-elle? Local? Lointain? Quand elle serait partie pour quelque couvent rustique, le dur esprit de négoce et de culture régnerait seul sur ce grand domaine, comme sur bien d'autres. Agenouillée, sans support, sans chaise, sur la pierre frottée par tant de sabots ferrés, à quelques mètres d'elle, il pensait à ce qu'aurait été sa vie à lui, si, dédaignant les complexes joies de l'intelligence et le postulat d'indépendance qu'elle pose, il avait pu lui aussi s'en aller vers l'appel avec autant de tranquille simplicité.